Donc, M. Césari a été tutaire, et M. Laroche a été le suppléant pour son fils. Association de parents et amis de personnes en terre des portales de la banlieue nord-ouest de Paris, API la Maison du Phare. Pour siéger au sein de l'administration de l'association de parents et amis de personnes handicapées mentales de la banlieue nord-ouest de Paris, API la Maison du Phare, j'ai reçu la candidature de Mme Pernod, titulaire, et de Mme Rossignol, en qualité de suppléante. D'autres membres. Il s'abstient. Et bon, je vous remercie. Association franco-brésilienne des familles amis d'handicapés, l'ACFA. Pour présenter la ville au sein de l'association franco-brésilienne des familles amis d'handicapés, j'ai reçu les candidatures de Mme Boragno, de Mme Pernod et de Mme Rossignol.
Jean-Philippe Elie.
Donc, Malvé ou Alors, nous allons prendre l'urne. Vous allez prendre pour ceux qui ont des pouvoirs s'ils en ont. Donc, je rappelle, M. Elie pour la fonction de gauche, pour la majorité, Mme Boragno, Mme Pernod et Mme Rossignol. Le secrétaire de rappeler.
Francis.
S'il vous plaît. Monsieur Jacques Kosinski. Madame Marie-Pierre Limoges.
C'est pas un nom.
Oui, c'est vrai. Monsieur Daniel Cortez. C'est l'ACFA.
Ah oui,
Madame Christiane Randach. Madame Aurélie Taquillan. Monsieur Bernard Accard. Madame Laetitia de Villard. Madame Nathalie Renaud. Monsieur Serge de Cézon. Monsieur Éric Césari. Monsieur Patrick Gimonet. Madame Nicole Pernod. Monsieur Jean Spiri. Madame Sherazel Djebari. Monsieur Yves Jean. Madame Sandrine Loqueneux. Madame Catherine Écran. Madame Martine Doragno. Monsieur Khalid Aïtoma, Madame Caroline Cornu, Monsieur Hervé de Compiègne, Madame Catherine Morel, Madame Marion Jacob Chaillet, Monsieur Michel Georget, Monsieur José Donacimento, Madame Solange Rossignol, Monsieur Stéphane Fichon, Monsieur Arthur Saint-Gabriel, Monsieur Guy Rier, Madame Boutena Sabata, Madame Christine Focose, Madame Sybille Dalimo, Monsieur François Latouche, Madame Stéphanie Suarez, Madame Blandine Koulika, Monsieur Montjardin, Monsieur Jean-Michel Huyong, Monsieur Hervé Châtelain, Madame Diane Zetoun, Monsieur Patrick Boli, Monsieur Pierre Laroche, Madame Maria Garcia, Monsieur Alban Thomas, Madame Corinne Leroy-Durel, Monsieur Jean-Philippe Elie, Madame Cécile Boucherie, Monsieur Karine Arnaud, Madame Joël Paris, Monsieur Jean-André Lasserre, Madame Floriane Degnaud, Monsieur Richard Croche, M.
Monsieur Arash Derambach,
Bravo.
Et Madame Dominique Bouilloua.
On va passer à une autre association qui est l'association médico-pédagogique de Courbevoie. Pour représenter la ville au sein de l'association médico-pédagogique de Courbevoie, j'ai reçu les candidatures de M. Thierry, de Mme Loqueneux, de Mme Devidard, de Mme Taguida et de Mme Perrault.
Jean-Philippe Elie.
Donc, l'association médico-pédagogique de Courbevoie. Et on sera dit que nous repassons à la belle durée vide.
Merci. Madame Aurel Peck,
M. Georget et Mme Hacock pour l'opposition. En cotisation foncière des entreprises, en qualité de titulaire, Mme Ruffin, M. Apourchaud, M. Farcini, Mme Astanti et M. Matou. En qualité de suppléant, M. Latou, M. Naon, Mme Grossignol, Mme Écran, Mme Chanteau. Les autres candidats. Je vous propose d'opérer cette désignation à main levée conformément à l'article L21-21-21 du Code général des collectivités territoriales. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Sont proposés donc aux services fiscaux pour faire partie de la commission commune des impôts directs les noms que je vais vous citer. Nous allons passer à l'entier des résultats de la commission intercommunale des impôts directs. Pour siéger au sein de cette commission intercommunale des impôts directs, j'ai reçu les candidatures. Qualité de titulaire de M. Gimonet, de Mme Ruffin, de M. Farcini, de Mme Bastanti, de M. Apourchaud, de M. Bougin, de M. Collin, de Mme Morvan, de M. Matouf et de M. Deverner pour l'opposition. Qualité de suppléant, M. Régué, Mme Dolé, Mme Lemantique, M. Latouf, Mme Écran, Mme Boralier, Monsieur Mantes, M. Châtelain et Mme Chanteau, et Mme Hacklock pour l'opposition. D'autres candidats. Passez au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Ces candidats sont donc élus. On a le résultat, si on peut donner tout à l'heure. On va passer au dossier suivant. Non ? Alors, il y a un dossier de la désignation du bâtiment au sein de ces loisirs. On va passer donc par la parole à Mme Limoges.
Je concours président de la direction de la communication et des relations publiques organise les jeux concours sur la page Facebook de la ville. Ces jeux sont organisés au rythme de 20 et 2 mois environ. Ces jeux concours ont pour vocation de promouvoir la ville sur les réseaux sociaux, recruter de nouveaux fans Facebook afin d'accroître l'audience de la page grâce à des mécaniques de viralité. Fidéliser les personnes déjà abonnées en leur proposant des contenus intéressants et attractifs. Principe d'utilisation, ces jeux sont organisés sur une application développée par la société Social Shaker. Cette application permet de déterminer la pièce graphique et les questions du jeu, d'obtenir le nombre de participants à l'issue du jeu et d'effectuer le tirage au sort. Cette application est directement intégrée à la page Facebook de la ville de Courbevoie. Les internautes souhaitant participer à un jeu concours doivent remplir des questions à choix multiples en rapport avec la thématique du jeu. Exemple du jeu concours à venir, des invitations offertes pour assister au spectacle de Florence Foresti au centre événementiel de Courbevoie le 24 mai 2014. La dotation sera composée de 20 invitations. Règlement du jeu concours. Lors de chaque jeu concours, un règlement est rédigé et déposé chez un huissier de justice. Tirage au sort des gagnants. Le tirage au sort du ou des gagnants est effectué directement dans l'application mise à notre disposition par Social Shaker. Il est demandé au Conseil d'approuver le principe des jeux concours organisés sur la page Facebook de la ville et l'attribution du versement des lots d'un montant maximum annuel de 3 000 euros par
question. Oui, monsieur. Attendez, si vous permettez, juste la délibération précédente sur la dénomination des bâtiments de la cité des loisirs a été retirée au plan.
Oui. Est-ce qu'on l'a retiré pour ça ? Je ne l'ai jamais retiré pour ça.
Quelles sont les raisons ?
Tout simplement parce que c'est pas encore au point, on va essayer de demander un petit peu à tout le monde ce qu'ils envisagent de faire pour les salles.
Donc on va demander par tout le monde.
Bah, on se dit ça.
Mais il y avait une enquête qui avait été faite il y a un an là-dessus.
Comment les salles on peut le faire ? Et quels sont les noms qu'on peut donner aux salles ?
Par salle ?
Oui.
Mais là, c'est pas l'objet d'Adélie. D'Adélie, c'était sur les bâtiments eux-mêmes.
Non, c'est dans la baisse, c'est dans la baisse. On voulait savoir exactement.
Bah, si il y avait 3 bâtiments pour lesquels il fallait.
Non, non, les salles, les bâtiments, les nominations des bâtiments. Ah, les salles. Il y a des salles dans les bâtiments, pour savoir, pour faire un enquête. C'est une question de financement, c'est une question, disons, de dénomination.
Oui, non, ça, c'est d'accord. C'est une question de financement. C'est un peu regrettable qu'on apprenne si tard, parce que ça veut dire.
Oui, mais j'ai un autre dossier qu'on a retiré aussi avec M. Gomes.
Encore ?
Oui.
Je vous avais invité. Je
vous avais invité.
D'accord. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on les prépare, on les retire.
Ah oui. Oui, c'est des impératifs comme cela.
Enfin, je ne pense pas que la réponse est trop importante encore. Je ne sais pas. D'accord, mais quand les impératifs.
Le simple
mot de l'élimination de chaque, ça peut être bon encore.
Bref, non mais c'est pas ça, c'est pas très clair. Merci donc en tous les cas, on a une intervention au sujet de cette délibération.
Donc en votant cette délibération, il est demandé que tous les courbevoisiens contribuables allouent 3000 euros à des jeux concours organisés sur la page Facebook de la ville. Cependant, tous ces contribuables courbevoisiens ne pourront pas participer à ce jeu, ou même n'en auront pas connaissance. En effet, pour cela, il faudrait répondre à deux conditions. La première étant d'avoir accès à Internet. Certes, le taux de connexion des Français est l'un des plus importants des pays d'Europe. Cependant, plus de 6,5 millions de foyers, soit près de 24,1%, n'étaient pas raccordés à Internet en 2013. Cette population de non-connectés est à plus de la moitié composée de personnes ayant plus de 65 ans et les foyers à revenus modestes ne sont pas non plus épargnés, avec par exemple les jeunes qui démarrent dans la vie ou encore les étudiants. Donc ça c'est une étude de la CERP Credoc, hein, ces chiffres-là. Courbevoie n'échappe pas à cette règle et la mairie aurait pu, avec ses 3000 euros, commencer à investir dans des points d'accès au net installés dans les lieux publics de la ville. Cela aurait eu pour effet de contribuer à réduire la fracture numérique entre les habitants et rétablir une égalité entre tous les citoyens, ceux qui disposent d'une connexion à Internet et ceux qui n'en disposent pas. Car à l'heure où une partie croissante des activités municipales sont possibles via le numérique, force est de constater que cette nouvelle organisation de services offre la primauté, pour ne pas dire l'exclusivité, aux habitants disposant d'une connexion à Internet. Comme par exemple l'inscription aux activités sportives et culturelles qui chaque année se fait d'abord et exclusivement par le net. Il reste aux non-connectés à se partager à la fin et sur une période plus réduite les miettes restantes des inscriptions quand il en reste. Pour pouvoir participer à ce type de concours, il faudra également répondre à une seconde condition, celle de disposer impérativement d'un compte Facebook. Or, tous les courbevoisiens n'utilisent pas de compte Facebook. Par impossibilité parfois, on retrouve ici nos non connectés, mais aussi parfois par choix. En effet, certains sont totalement imperméables à ce type de médias, voire s'en méfient car ils suspectent un système intrusif dans leur vie privée. Sur ce dernier point, qui peut à ce jour affirmer qu'ils ont tort ou raison ? L'actualité répond en partie à cette question avec la mise à disposition récemment par Facebook, ce mois-ci, d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Nearby Friend, permettant la géolocalisation de ses contacts. Ça, c'est pour la partie intrusion dans la vie privée. Pour ce qui concerne l'application Social Shaker, celle que vous allez utiliser pour le concours, il faut savoir qu'elle collecte des données. Et les données suivantes qu'elle collecte sont nom, prénom, email, adresse postale, sexe, date de naissance, etc. C'est ce que Shaker Social indique sur sa page de présentation. Pouvez-vous alors nous éclairer sur l'utilisation finale des données collectées auprès des participants au concours ? Pour conclure, nous aurions préféré qu'avant de dépenser des fonds publics dans des concours organisés sur Facebook, la ville mette à disposition de toutes et de tous les moyens d'accéder au net, afin qu'aucun habitant n'en soit exclu. Par ailleurs, nous attendons des garanties à ce que le fichier constitué d'informations personnelles collecté via Facebook ne servira qu'aux seules fins de 10 concours et sera détruit une fois les jeux clos.
En ce qui concerne la garantie du fichier, j'imagine que la société Social Shaker, comme toutes les sociétés de ce type, sont contrôlées par la CNIL et que les fichiers sont déclarés, etc. Je vais cependant me renseigner et fournir toutes les garanties à ce sujet. Sur le libre choix d'aller sur Facebook ou pas, donc, voilà, c'est comme ça, on y va si on a envie, on n'y va pas si on n'a pas envie, et puis si on veut jouer au jeu, on y joue, et si on n'a pas envie de jouer, on n'y joue pas.
Et si on n'a pas Internet, on fait comment ?
En ce qui concerne l'accès à Internet, je vous rappelle d'une part que Courbevoie est la ville la plus connectée de France en termes d'accès au réseau Internet, et que d'autre part, contrairement à ce que vous dites, La ville de Courbevoie permet un certain nombre d'utilisations, notamment pour les seniors, dans le cadre du BIGE pour les jeunes, et qu'elle dans le numérique, dans les écoles, etc., et qu'elle travaille largement à faciliter l'accès à tous et à rompre cette fracture numérique. Voilà.
Non, mais je suis désolé, il n'y a aucun point d'accès public à Internet. Quand vous parlez du BIGE, quand vous parlez du BIGE pour les personnes âgées, c'était effectivement une possibilité. C'était une possibilité, mais ça a été fermé pour les personnes âgées. Après, quand vous dites qu'il y a un accès Internet dans les écoles maternelles, je suppose que vous ne demandez pas aux élèves de maternelle d'aller jouer sur Facebook.
Enfin,
voilà, non mais je veux dire où il y a des accès publics à Internet à Courbevoie, mis à disposition par la mairie. Donc les gens qui vont aller au BIGE vont y aller pour aller jouer sur Facebook.
Excusez-moi, si c'est leur souhait, s'il n'y a aucune raison qu'ils n'y aillent pas. Et là, on n'est plus dans la fracture par rapport à une inscription sur Facebook ou par rapport au fait qu'ils n'ont pas Internet.
Il y a combien de points d'accès au BIGE ?
Votre question est de dire comment font les gens qui n'ont pas accès à Internet pour s'inscrire et aller jouer sur Facebook ?
Il y a combien d'accès
au BIGE ? Et la réponse est le BIGE, vous allez au BIGE, oui. Il y a une dizaine d'ordinateurs. Et pour les personnes qui ne sont pas sensibles à l'ordinateur et à Internet, vous avez des personnes qui sont là pour vous aider et vous former à l'accès à Internet.
Et au BIGE, les ordinateurs sont utilisés pour faire quoi ?
Ah ben Facebook, monsieur, Facebook. Alors là, je vais vous dire quelque chose, monsieur. Je vous conseille d'aller au BIGE. Lorsque j'y suis allée la semaine dernière, il y avait des jeunes qui étaient sur Facebook en train de dialoguer entre eux. Pardon ?
Pas de cela dont on parle, madame.
Ah ben, on est en train de parler de Facebook et d'Internet.
De la fracture numérique.
Eh ben, fracture numérique,
elle concerne tout le monde. Je vous dis, on contribue largement à la rompre sur le territoire par de multiples actions.
Le sujet, il a été évoqué par monsieur en disant que ça concerne également les jeunes. Je réponds à la question. Les jeunes ont accès à Internet et à Facebook aux jeunes, et ils sont également aidés par les...
C'est une partie, mais 65%, ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans.
Ils sont aidés par le personnel.
Vous confirmez que les personnes âgées ont accès au BIGE?
Je confirme. Si je peux me permettre...
Non, mais parce qu'il y a une personne âgée qu'on a croisée, nous, qui n'avait plus accès au BIGE. Donc voilà, si vous confirmez qu'on a accès, on a accès.
Excusez-moi, mais depuis 2 ans, gratuit.
Les courses, c'est une chose, mais l'accès, c'est une autre chose.
Ils ont accès automatiquement et ils achètent des ordinateurs de plus en plus. Et j'en ai beaucoup, justement, qui adorent
aller travailler.
Je suis désolé.
J'en ai beaucoup, les gens. Très bien. Monsieur Berger, je reviens quand même sur la question de délibération parce que il est marqué dénomination des bâtiments au sein de la cité des loisirs.
Oui.
Pas les salles. Aujourd'hui, la partie festive, le bâtiment Colombe, il est demandé donc, on lui demande de. Ce ne sont pas les salles, ce sont les bâtiments.
C'est une partie de la des salles aussi en même temps, je suis à l'intérieur du bâtiment.
Vous avez répondu que la raison pour laquelle vous l'avez retiré, c'est qu'on se prononce
sur les salles. Il y a des salles quand même, des bâtiments.
Dans cette délit, ça parle pas des salles.
Les salles, dans les bâtiments, il y a des salles.
D'accord.
Oui.
On aurait pu très bien maintenir. On aurait pu maintenir sur les bâtiments, ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà.
Bien, on passe au vote en ce qui concerne le jeu de concours Facebook de la ville. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci, Madame Limoges, Monsieur Césari. En attendant, je vais me permettre le dernier résultat. Association médico-pédagogique de Courbevoie, CNPP. Donc, 52 bulletins, donc de votants, on trouvait dans l'union 52, l'un est nul 3, je crois que j'ai mis 49. Nous avons donc M. Spiri 41 voix, Mme Le Queneux 41 voix, Mme Delinard 41 voix, Mme Taquinet 41 voix, Mme Bernot 41 voix, M. Lee 8 voix. Sont déclarés élus M. Spiri, Mme Le Queneux, Mme Delinard, Mme Taquinet et Mme Bernot. Merci, c'est à vous, M. Spiri.
Merci, M. le maire. Chers collègues, la délibération qui vous est présentée ce soir a pour objet d'apporter des modifications assez modestes mais indispensables sur le fonctionnement et l'évolution de notre PLU. Il s'agit d'une part de l'adapter aux nouvelles dispositions légales ou réglementaires, telles que la loi de mars 2014 qui supprime la limitation des droits à construire en cas de division foncière, ou encore la loi sur le logement social ou SRU et son application dans le PLH en termes de taux, la conséquence étant sur ce point de modifier l'article 2 du règlement des zones UA, UB, UD et UG afin de majorer à 30% donc au-delà des 25% prévus par la loi, mais ils ont un effort particulier, afin donc de majorer à 30% au lieu des 20% dans le précédent texte du PLU, l'obligation de réalisation de logements sociaux pour tout programme comprenant plus de 20 logements et d'étendre cette obligation à la zone UE. Il s'agit d'autre part de procéder à des aménagements qui nous permettront d'adapter certains espaces de notre ville au projet en cours ou encore de transposer dans le PLU la réalité du terrain issue des constats effectués par les services. C'est ainsi qu'il est notamment proposé de requalifier de liaison intra-quartier la liaison située en bordure de la Muglaise qui était à tort intitulée liaison inter-quartier. L'ensemble de ces modifications respecte les dispositions de l'article 123-13 du Code de l'urbanisme et sont donc applicables s'agissant du PLU sous la procédure de la modification simplifiée. L'article 123-13-1 précise que la procédure est engagée à l'initiative du maire. Mes chers collègues, cette délibération n'a pas de caractère obligatoire, mais il a semblé à M. le maire et à la majorité qu'il convenait d'en faire une communication à l'Assemblée. Je demande donc au conseil municipal de prendre acte du lancement de la procédure de modification numéro 3 du PLU.
Question ? Oui, madame.
Cette délibération propose que le plan local d'urbanisme actuel s'engage dans une troisième modification. En moins de 4 ans, le PLU a déjà fait l'objet de 4 mises à jour, d'une modification simplifiée, de 2 modifications et de 2 révisions simplifiées. Certes, il peut toujours remettre sur le métier d'ouvrage, surtout quand de bonnes lois suggèrent certaines modifications. Nous nous étonnons cependant de la précipitation dans laquelle celle-ci est engagée. Sans attendre de présenter et de débattre de certains projets de restructuration substantielle, comme le centre commercial de la Coupole ou le quartier Gambetta, sans co-construire ces projets, comme Mme Limoges le signalait, au sein des conseils de quartier, sans en débattre auparavant au sein de la commission urbanisme pour évoquer démocratiquement les 7 modifications envisagées. Par ailleurs, cet énième changement de PLU s'inscrit-il dans la révision obligée des 3 ans du PLU vis-à-vis du schéma directeur? Si ce n'est pas le cas, faudra-t-il s'attendre à une 4e modification? Et si c'est le cas, pourquoi ne pas l'indiquer dans cette délibération? Certaines modifications nous paraissent intéressantes, comme celle issue directement de la très bonne loi Allure, dernièrement adoptée. Comme son acronyme Allure l'indique, cette loi traite de l'accès au logement social et d'un urbanisme rénové, ce qui tombe particulièrement bien. Car à Courbevoie, la question du logement social est un dossier chaud à traiter avec circonspection. Nous avons un office défaillant, un taux de vacances considérable, une gestion du patrimoine bâti déplorable, des attributions et une gestion opaque. Bref, il est vraiment temps de construire une politique de logement social digne de ce nom à Courbevoie. Et visiblement, grâce à la loi Allure, nous pourrons faire, lors de cette modification de PLU, quelques avancées. La majoration à 30% au lieu de 20%, comme le schéma directeur l'y invite, nous semble être un élément intéressant. Il ne reste plus maintenant qu'à voir dans les mois qui viennent quelles seront les propositions sur votre politique en matière de logement social pour tous. Puisque vous êtes également président de la CASD, quid du PLH intercommunal engagé depuis 3 ans? Y aurait-il quelques traces de ce précieux document sur lequel le PLU de Courbevoie pourrait se référer? Quand pourrons-nous nous-mêmes en bénéficier? Comment engager une telle modification de PLU sans en attendre son diagnostic? Aussi, nous prenons acte du lancement de cette procédure de modification pour laquelle nous serons particulièrement vigilants afin qu'elle ne découpe pas avant tout d'un souci de penser certaines bavures passées, mais qu'elle signifie pour les Courbevoisiens de réelles avancées en termes de logement social, d'attractivité et de qualité de vie. Merci.
Oui, madame, je ne vais pas reprendre les propos que vous avez tenus sur l'office. C'est du domaine de votre liberté d'appréciation, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est pas le sujet de la délibération. Je dis juste en réponse deux choses très simples. D'abord, comme je vous l'ai indiqué très largement et démontré, je crois, avec les textes même, il s'agit d'une délibération technique qui reprend un certain nombre d'éléments qui sont très largement liés à la loi et les règlements, et donc c'est de la transposition dans notre PLU de certaines obligations. Nous allons parfois au-delà des obligations, vous l'avez souligné vous-même, s'agissant du logement social, donc je crois qu'on peut s'en féliciter tous, et la majorité en premier, puisque nous sommes en espèce décisionnaire. Voilà. S'agissant de la CSD, madame, il y a désormais une assemblée dans laquelle l'opposition y est représentée. Elle posera les questions qu'elle veut au moment où la CSD se réunira. Je peux vous dire néanmoins, si monsieur le maire m'autorise, que le PLH est travaillé et qu'il fait l'objet de réunions régulières. Il en fera encore l'objet cette semaine pour tout vous dire.
Oui, non, je voulais juste dire que c'est une information intéressante. J'espère qu'on aura les résultats, mais ce serait même plus utile et logique qu'on puisse être informé de ces travaux, de leur état d'avancement. Le PLH est un document qui s'applique, comme son nom l'indique, à l'ensemble du territoire, donc les déclinaisons dans nos villes respectives. Et je crois que nous devrions pouvoir être en mesure d'avoir accès à ces travaux et leur état d'avancement. Surtout, je crois que ça fait depuis 3 ans, me semble-t-il, qu'ils ont été engagés. Donc, s'il y a eu des avancées, des analyses complémentaires, je pense qu'on peut les avoir.
N'inquiétez pas, vous relâchez les communiquants. En heure, vous aurez les éléments. Donc, vous laisserez quand même à la majorité le soin de finir le document avant de venir en assemblée et de présenter à la réflexion de l'assemblée l'ensemble des travaux. Ce document est d'ailleurs un document qui est travaillé, je vous le rappelle, dans le cadre du CDT. Et donc, il a été travaillé avec d'autres partenaires.
Oui, mais ça, on ne peut pas le savoir.
Vous voyez, je vous dis.
C'est même pas dans le CDT, mais je crois qu'il a été élaboré par un cabinet.
On a un cabinet qui nous accompagne.
C'est ça, qui est, donc, qui est financé par.
Le cabinet nous accompagne, nous aurons des accompagnements municipaux. C'est le cas dans le cadre du gouvernement courant des urbaines, par exemple.
Je crois qu'on peut légitimement pouvoir bénéficier des travaux intermédiaires et pas simplement du résultat final. Un document aussi important, ce serait logique. Merci.
Merci, on prend acte, il n'y avait pas de.
Oui, il n'y a pas de problème.
Donc on va passer au dossier suivant. Maintenant que j'ai complète, je vais expliquer votre dossier, puisque il a été retiré aussi.
Oui, le dossier qui a été retiré, monsieur le maire. Alors, juste une précision sur le retrait de ce rapport qui devait fixer les tarifs du CIS. Le CIS, je rappelle, c'est le club d'initiation sportive. Je vais faire un bref historique. Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2013-2014, le club d'initiation sportive fonctionne toute la journée, des mercredis du temps scolaire, soit 36 semaines durant lesquelles sont pratiquées diverses activités sportives. Il accueille 80 enfants entre 8 et 10 ans inscrits en début d'année scolaire, offrant un mode de garde aux parents de 8h à 18h. À la suite des nécessaires aménagements issus de la réforme des rythmes scolaires, il n'en était pas encore nos peines, mais il a été envisagé dans un premier temps qu'à partir de la rentrée scolaire 2014-2015, le 6 accueillerait les enfants le mercredi après-midi. Dans ce cadre, une révision des tarifs d'inscription au 6 aurait été nécessaire. Parallèlement, la réflexion menée par le service des sports et le VAL à l'occasion de la réforme des rythmes scolaires a mis en évidence la complémentarité des deux structures et la richesse qui peut en découler pour les enfants. Il a donc été décidé qu'à partir de la rentrée scolaire 2014, le club d'initiation sportive du service des sports mettra chaque mercredi après-midi à disposition des enfants fréquentant les structures du VAL 11 éducateurs sportifs municipaux dans les installations de l'espace sportif Jean-Pierre Rive. Un projet pédagogique est en cours d'élaboration permettant aux enfants inscrits dans les structures du Val de suivre un cycle de 5 à 7 séances d'initiation sportive. Cette réorganisation ne nécessite donc plus la révision des tarifs par le conseil municipal, car cette prestation est incluse dans l'inscription au Val sans majoration. Donc, ils ont et le service du Val et le service des sports à disposition.
Merci. Bien. Eh bien, maintenant, nous allons passer. On parlera de ce dossier quand il sera prochain.
Je suis d'accord sur un point, en tout cas, avec une courtesse. Pour ce qui est de rythme scolaire, à Courbevoie, on n'est pas arrivé au bout de nos peines, effectivement.
Je vais permettre, monsieur Lasserre, on n'est pas arrivé parce que c'est Courbevoie.
Non, non.
Mais on est arrivé parce que le gouvernement a quand même une méthode pour le mois
de février.
Il y a beaucoup de villes qui l'ont mis en place, et y compris Paris, et ça se passe très bien, j'ai été vérifié.
Non, monsieur Lasserre, il y a des tas de problèmes à Paris.
Du coup, j'ai été vérifié pour trois états du chac.
Ça s'appelle un village Potemkin, monsieur Lasserre.
Non, 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 c'est une réalité, mais j'ai été vérifié moi-même en direct. Voilà. Donc je répète, nous ne sommes pas au bout de nos peines, effectivement, à Courbevoie.
Bon, on va avoir un peu de ce dossier.
Mais nous aurons l'occasion d'y revenir, j'en suis convaincu.
À M. Gimelet.
Merci, M. le maire. Donc, nous allons procéder avant le vote du budget primitif 2014 de la ville. Et au vote des subventions, je vous propose donc de vous présenter... sur la base de ce diaporama, le rapport de présentation qui a été adressé avec la convocation à la présente séance aux différents conseillers. Le budget principal ville pour 2014 totalise 267 666 000 euros. Le budget annexe cantine totalise, en ce qui le concerne, 7 187 000 euros. Il sera financé et équilibré par une subvention d'équilibre versée par la ville pour 3 148 209 euros. Vous voyez que le budget total donc, de l'année 2014 se ventile d'une part en ce qui concerne le budget de fonctionnement à une somme de 183 391 000 contre 177 millions en 2013. Et en investissement, 76 569 000 contre 108 millions en 2013. L'équilibre général du budget s'établit comme suit. Nous reviendrons bien évidemment en détail sur chacun de ces postes au cours de cette présentation, mais globalement et de manière synthétique, en matière de recettes. Les recettes fiscales, impôts et taxes totaliseraient 144 600 000 euros. Les dotations de l'État et des organismes annexes, 16 600 000. Le produit des services, 11 600 000. Nous avons un record de résultat de 2013 de 10 600 000 euros. Le total de ces recettes sera affecté donc en priorité aux dépenses de fonctionnement. Ces dépenses de fonctionnement sont les suivantes. Premier poste principal, les charges de personnel, qui totaliseraient pour 2014 68 300 000 euros. Les charges générales de fonctionnement, 38 500 000 euros. Les subventions diverses versées aux organismes tiers et aux subventions, 27 200 000 euros. Les reversements de fiscalité et les prélèvements fiscaux relatifs notamment au fonds de solidarité des communes d'Île-de-France, 16 700 000 euros. Et donc, l'équilibre recettes moins dépenses dégage un autofinancement sur l'exercice 2014 de 24 500 000 euros. Cet autofinancement sera naturellement affecté pour financer une partie des investissements programmé et budgété sur l'année 2014. Le budget d'investissement en termes de recettes donc reprendra cet autofinancement pour 24 500 000 euros. À cela viendra se rajouter les ressources propres, dont notamment les fonds de FCTVA, le fonds de compensation de la TVA, pour un montant global de 18 600 000 euros. se rajouteront les subventions d'investissement dont nous avons connaissance à ce jour pour 4 600 000 euros. Et il est prévu donc un volume d'emprunt maximum de 26 millions d'euros sur ce budget pour équilibrer les dépenses d'investissement qui totalisent 84 millions d'euros, dont les dépenses d'équipement et d'investissement à hauteur de 66 900 000 euros et le remboursement de la dette à hauteur de 6 700 000 euros. Voilà, cet équilibre général budgétaire reprend également un report de résultats sur le budget d'investissement 2013 de 800 000 euros. Alors je vous propose, après cette présentation synthétique, d'examiner en détail successivement la section de fonctionnement, puis ensuite la section d'investissement. Les dépenses de fonctionnement, comme vous l'avez vu, s'élèveraient donc à 183 391 000 euros et se répartissent comme suit à travers les différentes fonctions générales donc du budget primitif. Je vous laisse découvrir ces éléments qui figuraient donc dans le rapport qui vous a été communiqué. L'administration générale 14%, l'aménagement service urbain environnement 10%, la famille petite enfance 11,7%, sport jeunesse 13,8%, culture 5%, enseignement formation 12%, etc. Le fonds de solidarité de France représentant 7% des dépenses de fonctionnement. La masse salariale, poste numéro 1 de notre budget 2014, de notre budget de manière générale, la masse salariale s'établirait pour 2014 à 68 350 000 euros contre 66 383 000 en 2013. Elle représente donc 43% des dépenses réelles de fonctionnement. Cette augmentation est relativement ciblée, elle est ciblée notamment sur un certain nombre d'éléments relatifs donc à des revalorisations naturelles des salaires, des rémunérations, mais également sur le troisième volet de la poursuite de la mise en place du nouveau régime indemnitaire qui est une décision propre à la ville. Elle verra également la mise en place de la mutuelle pour nos agents, ainsi qu'un certain nombre de créations de postes, ce qui a été déjà des délibérations. En ce qui concerne les charges générales, les charges générales ressortent à 38 510 000 euros. Ces postes de charges évoluent de l'ordre de 2% et prennent en compte notamment la mise en place des nouveaux équipements, donc la mise en service des nouveaux équipements. Les subventions ressortiront globalement à 27 189 000 euros. Et donc, vous avez les principales, je propose de balayer les principales subventions qui seront attribuées, donc notamment celles déjà pour les établissements publics et les budgets annexes. Donc, en ce qui concerne l'établissement public du Val, 12 859 000 euros, en progression de 82 000 euros par rapport à l'an passé. La subvention dont sera dotée notre CCAS, 2 070 000 euros. Et la subvention d'équilibre du budget cantine, 3 148 000 euros. La ventilation donc des dépenses de subventions à travers les différents secteurs sont donc les suivantes. Le centre culturel donc, sera doté d'une subvention de 3 700 000 euros qui représente donc 56% donc, de l'ensemble des subventions. Tout ce qui concerne le sport et la jeunesse, 31%, famille sociale, 4%. Et les autres, la culture hors centre culturel 2%, et donc l'ensemble du reste du secteur associatif 5%. On verra tout à l'heure en détail les attributions de subventions. Les charges exceptionnelles pour 1 580 000 regroupent essentiellement l'allocation municipale de garde d'enfants à domicile, instituée donc depuis 1995, pour 1 130 000 euros, la prime de naissance troisième enfant, 92 000 euros. Et la subvention pour l'association Atmosphère, dans le cadre du festival concerné, 100 000 euros. Les prélèvements de fiscalité et reversements de fiscalité sont essentiellement ciblés sur la contribution donc, de la ville de Courbevoie au Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, le SCRIF, pour 12 860 000 euros, montant budgété égal au montant de l'an passé en attente de modification définitive. Il est également programmé, enfin, budgété, le reversement à la communauté d'agglomération Seine-Défense de la part de la taxe ordure ménagère, qui correspond donc au traitement des ordures ménagères, qui est donc assumé au sein donc de notre communauté d'agglomération, la collecte restant donc à la charge de la ville. Enfin, il y a le prélèvement au titre des 25% de logements sociaux, puisque Courbevoie, nous atteignons très précisément au 1er janvier 2013, qui est la date de référence, 22,10% de logements sociaux. Donc, le différentiel nous amènera donc à contribuer à hauteur de 337 600 euros au titre de ce prélèvement. Côté ressources, c'est le nerf de la guerre. Les impôts, la fiscalité, d'une manière générale, représente les deux tiers du budget, 65% pour le budget 2014, entre les impôts locaux, l'impôt des ménages, les attributions, la compensation reversée par la communauté d'agglomération après déduction de l'ensemble de ses charges propres, qui provient donc de la fiscalité des entreprises et des autres éléments fiscaux. Les autres recettes sont constituées donc par les autres taxes, dont la taxe ordure ménagère, qui représente 14%, on verra en détail ces différents postes dans un moment. Les dotations et participations de l'État représentent 9%, les produits des services et du domaine 5%, et nous avons un résultat reporté qui représente 6% des produits. En ce qui concerne le vote des taux pour 2014, il sera proposé au Conseil une augmentation proportionnelle des taux de 3,5% qui s'appliqueront dans la taxe d'habitation et la taxe foncière. Le taux de la taxe d'habitation serait donc porté à 7,62% contre 7,36%, alors que nous avons une moyenne nationale à 23,88%. La taxe foncière à 5,44% pour une moyenne nationale à 20%, et la taxe du foncier bâti à 9,60%. Le taux concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restera fixé à 2,9%, en résultant du fait que, malgré l'augmentation de la population, nos volumes de déchets diminuent, ce qui est une bonne chose. Vous avez une diapositive qui représente la variation et l'évolution des taux de la taxe d'habitation et intégrant pour une exhaustivité d'informations du Conseil, donc la part départementale de la taxe d'habitation, qui l'ancienne part départementale, qui dorénavant donc est appelée par la communauté d'agglomération. Donc un taux global intégrant la taxe d'habitation, la partie appelée par la communauté d'agglomération, donc de 14%, contre une moyenne départementale de 18,68%, une moyenne nationale, je vous répète, de 23,8%. Concernant la taxe foncière, vous permettez donc de cibler, vous pouvez ainsi situer où se trouve Courbevoie en termes d'imposition sur les ménages, en termes de taxe foncière à 5,26%, pour une moyenne départementale à 12,4% et une moyenne nationale à plus de 20%. Vous avez sur cette diapositive un schéma qui permet donc d'illustrer la répartition donc des impôts locaux qui constituent donc les recettes fiscales de la ville. Donc l'attribution de compensation de la communauté d'agglomération qui correspond aux recettes, recettes fiscales en provenance des entreprises, donc 55%. La taxe d'habitation représente 11%, la taxe foncière 17%, la taxe ordure ménagère 9%, les droits de mutation 5%, les autres taxes 3%. Soit un total d'impôts locaux de 144 571 000 euros. À ces impôts locaux se rajoutent les autres taxes perçues par la ville, donc la taxe ordure ménagère 10 800 000 euros, les droits de mutation que nous avons, pour lesquels nous avons estimé le budget cette année pour 2014 à 8 millions d'euros contre 10 millions en 2010. Enfin, la taxe sur l'électricité serait de l'ordre de 1 550 000 euros. Les dotations et subventions représente globalement 16 600 000 euros de recettes. Les concours de l'État seraient donc notamment, ce qui concerne essentiellement la dotation globale de fonctionnement, de 10 728 000 contre 11 850 000 en 2013. Les subventions des autres partenaires de la ville, dont notamment le Conseil général et la Caisse d'allocation familiale, tout ce qui concerne notamment la participation aux frais de fonctionnement des crèches et à de garderies, pour 1 120 000 pour le Conseil général et 4 550 000 concernant les caisses d'allocation familiale. Petite synthèse sur les ratios financiers qui sont joints dans vos dossiers, pour comparer donc les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles de fonctionnement par habitant. Donc à Courbevoie, les dépenses réelles de fonctionnement par habitant représentent 1 757 euros, contre une moyenne de 1 395 euros pour les communes de 50 à 100 000 habitants. Et les recettes réelles de fonctionnement représentent pour Courbevoie 1 910 euros par habitant, pour une moyenne de 1 523 euros dans les communes de la même strate. Le taux d'épargne brute qui sera dégagé donc sur la ville, sur les comptes, sur ce budget primitif 2014, 8%, est conforme aux moyennes, à la moyenne constatée sur la strate de 50 à 100 000 habitants, qui est de 8,4%. Ce dernier tableau permet, en ce qui concerne l'autofinancement, donc dégagé par le budget de fonctionnement de la ville, de comparer donc l'évolution de l'autofinancement qui nous permet donc de financer une grande partie de nos investissements. Cet autofinancement représentera donc pour 2014 24 400 000 euros contre 20 500 000 euros en 2013, ce qui est relativement significatif compte tenu des contraintes importantes que nous subissons par ailleurs. En termes d'investissement, la ville présente, comme nous avons pu en débattre au cours du précédent conseil, un budget d'investissement volontariste et ambitieux dans un contexte, je le rappelle, qui est relativement contraint. La ville va procéder en 2014 à la livraison de projets structurants qui sont effectivement tournés sur l'avenir des projets de la ville et notamment sur un souci d'entretenir un développement durable. Il y aura notamment la finalisation de la construction du centre événementiel de la Cité des loisirs. Il y aura également en financement une augmentation significative de l'offre de services aux courbevoisiens, que ce soit en matière d'enfance, en matière de jeunesse, sport, culture et également en termes de solidarité. Enfin, la ville veillera, comme à l'accoutumée, à l'amélioration du cadre de vie de ses habitants avec de nouveaux espaces verts et des lieux de convivialité et de loisirs au bénéfice des courbevoisiens. La répartition des dépenses d'investissement de 2014 se résume comme suit. Les dépenses d'administration générale et d'équipement représenteront environ 33% de nos investissements. Les dépenses d'aménagement et de services urbains, 23%. Tout ce qui concerne l'économie, logement, la famille, la santé, 6%. Le sport et la jeunesse, 9%. La culture, 4%. L'enseignement et la formation, 11%. La sécurité et salubrité publique, 2,3%. Il sera affecté sur ce budget d'investissement un montant de quasiment 10% de ce budget pour le remboursement de la dette. Je vous propose de balayer les grandes lignes de ce budget d'investissement dont le détail vous a été fourni en annexe de questions avec notamment l'exhaustivité du budget primitif. Les principales opérations d'équipement peuvent se résumer en plusieurs chapitres. Tout d'abord, les investissements en faveur des familles représenteront une masse globale de 9 923 000 euros, avec notamment 2 350 000 euros pour la petite enfance, avec la finalisation des travaux de la crèche familiale Jean-Pierre Combeau, la réhabilitation d'un bâtiment Armand Sylvestre, et les travaux d'accessibilité PMR pour 247 000 euros. En ce qui concerne l'enseignement, il y a l'enseignement au sens large, 7 573 000 euros. Réhabilitation à Colmar Martine et l'opération Sonia de Lenay avec le recrutement donc, des écoles fermées, Vittenbeau et Fermé. Concernant le deuxième chapitre, l'offre de loisirs. Il sera donc consacré 9 046 000 euros. Pour la culture, 2 586 000 euros, avec des travaux ciblés sur l'espace Carpeau, avec le ravalement notamment de la façade extérieure de l'espace Carpeau pour 400 000 euros. Tout ça pour faire un lien logique avec le centre événementiel qui a ouvert ses portes en 2014, et donc pour concourir donc, effectivement, à un aménagement donc, de ces bâtiments dans le cadre de cette opération globale de ce bout du cœur de ville. Le centre culturel Hôtel de Ville verra un certain nombre de travaux d'entretien, des fenêtres et des matériels, et des travaux d'accessibilité sur les bâtiments culturels, sur les bâtiments liés affectés à la culture, seront donc en ce qui concerne donc de l'ordre de 200 000 euros, 142 000 euros pour l'espace Carpeau et 53 000 pour les bibliothèques. Toujours dans l'offre de loisirs, jeunesse et sport, 6 479 000 euros. Donc budget très significatif, donc la jeunesse 2 894 000 euros, avec donc le lancement d'une opération de réhabilitation et de travaux sur l'ancienne trésorerie municipale dont la ville est propriétaire, locaux qui ont été libérés comme vous le savez, et qui seront, qui ont vocation à être affectés à l'utilisation du Val au centre de loisirs. Donc première phase de travaux, 585 000 euros, les travaux se poursuivront, se termineront par exemple au début de l'année 2015. Travaux de la maison du Val-Caron, donc finalisation de cette opération qui a été livrée en 2013, 420 000 euros. Budget pour l'achat d'un local au faubourg de Marche, pour, qui sera affecté à l'établissement Val également, 765 000 euros. Des travaux de mise en, aux normes de locaux d'accessibilité PMR pour 33 000 euros dans les locaux jeunesse. Et le solde donc de l'opération de réhabilitation du chalet des Bardamel, qui a été livré, je vous le rappelle, en décembre 2013, pour 1 065 000 euros. Concernant le sport, 3 130 000 euros d'investissement budgété, avec entre autres, parmi les opérations ciblées, les tennis Borotra, avec la construction donc, de 3 cours en matériaux adaptés, la réfection de 3 cours en matériaux adaptés pour 300 000 euros, permettant donc une utilisation plus large de ces cours, et différents travaux de reprise des tensions sur ces installations Borotra. Quelques travaux d'aménagement et d'amélioration sur les locaux de la SNBS, en bord de Seine, les aménagements du vestiaire pour le club de rugby sur la partie droite, lorsque l'on regarde le stade, l'espace Jean-Pierre Ville de la Cité des Loisirs, pour 520 000 euros, et la rénovation, les travaux de rénovation sur le complexe piscine-patinoire, 586 000 euros, dont notamment les banques d'accueil de la patinoire, pour une meilleure convivialité et une meilleure utilisation des espaces. Et en ce qui concerne la piscine, les aménagements sur les parties vestiaires et d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, tant au vestiaire qu'au bassin. En matière d'environnement, chapitre environnement, voirie et qualité de vie, 15 779 000 euros. Nous citerons notamment les travaux d'aménagement du jardin Raspail, 800 000 euros, travaux d'aménagement de la rue des Fauvelles, 145 000 euros, études et travaux sur le square Normandie, 150 000 euros. En ce qui concerne la voirie, c'est 5 041 000 euros qui seront affectés, dont notamment 1 million pour le boulevard Aristide-Briand, toujours dans le cadre de cette opération liée donc à la livraison des nouveaux bâtiments de la Cité des Loisirs. Et pour la rue Jean-Pierre Timbaud, pour la deuxième tranche, 500 000 euros. Les aménagements urbains représenteront 6 678 000 euros. Il a été budgété par précaution donc des opportunités d'achat de terrain, notamment sur la zone UF, pour la création du futur village de l'Age, pour 3,5 millions. Et différentes opérations d'échange de foncier au niveau de la guerre de Bécon pour 126 000 euros. Les premiers budgets seront inscrits sur l'opération Cœur de Ville, en ce qui concerne donc la maîtrise d'œuvre pour 100 000 euros, la signalétique pour 100 000 euros, et un seul relatif à la ZAC Charras pour 365 000 euros. Concernant les équipements structurants pour l'avenir, nous avons un budget de 23 290 000 euros, ciblé essentiellement sur les sols de la construction donc de l'espace événementiel et la cité de loisirs pour 17 318 000 euros. avec notamment donc 14 millions d'euros pour les travaux, la finalisation des travaux et 2 100 000 pour les parkings. Enfin, un budget a été inscrit pour les équipements d'aménagement, notamment matériel et finalisation d'équipements pour 800 000 €. Différents travaux sont programmés également sur les bâtiments communaux, avec la rénovation de l'hôtel de ville, avec un budget de 700 000 €, les travaux d'amélioration sur notre contrat de performance énergétique des bâtiments communaux pour 2 900 000 €, et un budget global de 1 450 000 € pour les mises aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Voilà pour les grandes lignes de ce budget d'investissement. En ce qui concerne ce train financement, les recettes d'investissement se résument donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans le cadre du schéma général d'équilibre du budget. Donc, de la manière suivante, les 84 millions de recettes sont à hauteur donc, de 35% proviennent des opérations d'ordre, c'est-à-dire de l'autofinancement et des reports de moins 1. Les subventions d'investissement connues à ce jour représentent 6%, les dotations de l'État 5%, 5% des mises en réserve, les programmes de cession et d'équipement pour 5%, et l'équilibre budgétaire s'effectuera avec un emprunt maximum qui représentera 34% des recettes d'investissement. Donc pour parvenir à cet équilibre, entre d'une part les recettes fiscales qui nous ont été présentées, notamment à travers la fixation des taux, mais également des bases qui nous ont été communiquées par les services fiscaux, et d'un volume d'emprunt maximum de 26 millions d'euros, ces éléments permettront donc d'équilibrer notre budget 2014. Concernant l'endettement, la dette par habitant au 1er janvier 2014 est de 1541 euros, compte tenu des annuités prévues en 2014. La dette par habitant sera estimée, compte tenu de ces nouveaux emprunts, donc à un montant de 1 747 € par habitant, 31 décembre 2014, si 26 millions d'emprunts sont mobilisés. Vous avez sous ce graphique la dette de la ville de Courbevoie qui est en bleu ciel, la dette par habitant, donc, qui est donc en 2013 de 1 541 €. Passerait donc à 1 747 € en 31 décembre 2014. Donc comparé en violet avec la moyenne nationale des communes de plus de 50 000 habitants non membres d'une communauté d'agglomération, je précise.
Ça, c'est pas écrit, non.
Voilà, mesdames, messieurs, les principaux éléments donc, du rapport de présentation budgétaire de 2014. Il est également proposé au Conseil un réajustement des autorisations de programme et crédits de paiement conformément aux tableaux qui ont été joints et qui sont annexés au budget. Par ailleurs, conformément à la délibération du 14 avril 2008, il est proposé au Conseil de se prononcer sur la constitution ou la reprise de provisions au titre de l'exercice 2014. Ainsi, il est prévu de doter 10 717 € de dotation aux provisions pour le TIGE et 114 099 € de dotation aux provisions pour risques sur créances irrécouvrables. Compte tenu enfin de la baisse du produit fiscal de la communauté d'agglomération Seine-Défense, une révision à la baisse de l'attribution de compensation versée à Courbevoie est également nécessaire. La liste des subventions de fonctionnement et d'équipement qui seront présentées au vote du Conseil municipal, qui sont versées donc dans le cadre du budget, figure en annexe du budget primitif et qui vous a été transmis en même temps que la convocation à la présente séance. Donc il est proposé conseillers municipaux, après le débat qui ne manquera pas de s'ouvrir à la suite de cette présentation, donc de voter ce budget par chapitre, de voter également l'ajustement et la création, la clôture des autorisations de programme conformément aux tableaux qui ont été joints, de voter au titre de l'année 2014 1 717 € de provision pour litige et 114 099 € de provision pour créances irrécouvrables, de voter le montant de l'attribution de compensation qui sera attribuée par la communauté à la communauté d'agglomération Seine-Défense pour 79 252 945 euros, de voter le montant des subventions selon la liste jointe. Il y aura lieu également d'approuver les documents types de conventions de partenariat, d'avenant à ces conventions, d'avenant au contrat de partenariat passé avec les associations, les défis de subventions attribuées par la ville pour les 2014, d'un montant supérieur à 23 000 euros pour les associations sportives et d'un montant supérieur à 3 000 euros pour les autres associations. Il y a bien également autorisé à signer tous ces documents pour les 2014 au fur et à mesure des attributions de subventions. Enfin, je vous rappelle concernant le vote des subventions, que certains de nos collègues ont fait savoir que faisant partie du conseil d'administration d'associations, ils ne souhaitaient pas prendre part au vote concernant ces associations et que les détails figurent dans le projet de délibération qui vous a été transmis en l'état à la date de la convocation. Enfin, et afin de ne pas alourdir la procédure de vote, il vous sera demandé de procéder à un vote unique du budget principal ville 2014.
Monsieur. Oui. Donc, premier point, nous aimerions voter le budget en par partie. Budget principal, les budgets annexes et les subventions, chacun à part. Alors, la nouveauté du débat d'orientation budgétaire d'il y a 15 jours était que le plan pluriannuel d'investissement. La première prévision des investissements à la mairie de Courbevoie au-delà d'une seule année. La traduction que nous en voyons ce soir consiste à faire voter les autorisations de programme que vous avez ouvertes il y a déjà plusieurs années et pour lesquelles vous nous demandez d'ajuster les montants. Comment ne pas sursauter devant de telles variations? Parmi les exemples les plus significatifs, le programme de la maternelle Adélaïde passe d'un peu moins de 5 millions à plus de 10 millions. Celui et travaux de restructuration de l'hôtel de ville vont faire plus que tripler pour passer de 1,9 million à 6,4 millions. Et, autre exemple, les travaux rue de Beson, rue Marceau passent de 1,3 million à 5,4 millions. Excusez du peu. Ces variations extrêmes dans les autorisations de programme sont la négation même d'un plan pluriannuel d'investissement. La démonstration d'une navigation à vue. Une ville gestionnaire devrait commencer par définir ses besoins, les faire chiffrer avec des programmistes et maîtres d'œuvre dont c'est le métier, les planifier dans le temps pour laisser la charge d'investissement et avoir une vision à moyen terme des engagements financiers. Là, c'est le réajustement permanent que vous nous proposez, comme en témoigne d'ailleurs le yo-yo des dépenses d'investissement de la ville. 27 millions en 2011, le double en 2012, le triple en 2013, et évidemment une forte baisse en 2014, une fois les élections passées. Entre-temps, la dette a explosé, j'y reviendrai. Si, si, monsieur. 27 millions, le double en 2012, le triple en 2013. Et ensuite, ça baisse. Par ailleurs, à la lecture de cette autorisation de programme, les craintes que nous avions émises dans le débat d'orientation budgétaire sont confirmées. Inexistence d'un budget pour la rénovation de la dalle de la Défense, plusieurs centaines de millions d'euros de risques pour Courbevoie, inexistence d'un programme pour Charras et pour la création du centre aqualutique avec son nouveau bassin que vous promettez dans votre projet et depuis le mandat. On se demande aussi où est passé le projet de réaménagement du parc de Mécon, qui, je vous le rappelle, avait donné lieu à un vote d'une autorisation de programme en 2004 pour 11 millions, dont seulement 124 millions ont été dépensés à fin 2011. On se demande donc où sont vos vraies priorités. On se demande aussi pourquoi la rénovation de la dalle n'est pas prévue. D'autres promesses s'éloignent déjà elles aussi, comme la trame verte du parc d'Hydro, qui faisait l'objet d'une autorisation de programme de 2,2 millions d'euros en 2009, que vous avez remis en avant dans votre programme 2014, et dont nous apprenons que seuls 100 000 euros sont prévus cette année, après 20 000 euros les années précédentes. Encore des nouvelles études? Le problème, c'est que ça finit par coûter cher les études, et pendant ce temps-là, les projets n'avancent pas. Dernier point sur ces autorisations de programme, 10 millions d'euros sont prévus pour l'écoquartier de l'Age. Nous réitérons nos demandes d'obtenir le dossier que la mairie a dans ses mains depuis des mois et qu'elle ne communique pas malgré nos courriers auxquels vous ne jugez pas nécessaire de répondre. Du côté du budget de fonctionnement, nous avions souligné il y a 15 jours que les recettes de la commune étaient en tension, sans d'ailleurs que la faute en revienne à l'État. La principale ressource de la ville vient de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, celle qui est perçue via la CASD, et dont en fait, son nom n'apparaît pas, puisqu'elle apparaît dans le terme un petit peu complexe de reprise de la. Enfin, de taxes en provenance de la CASD. Et la contribution de cette cotisation sur la valeur ajoutée d'entreprise va baisser, en lien avec la perte d'attractivité de la Défense, que la ville aurait pu anticiper et prévenir. La montée en charge des fonds de péréquation régionaux et nationaux est prévue de longue date. Et ironie, votre budget a oublié de compter la hausse, déjà connue, de 12,9 millions à 14,2 millions en 2014 du Fonds de solidarité Île-de-France. Elle est connue, il y aura donc 1,3 million d'euros de plus à trouver. On pourrait avec ironie dire qu'avec cette charge, le budget que vous soumettez au vote n'est pas tout à fait équilibré. En tout cas, cette hausse est maintenant connue, le principe même, on était connu de la hausse, donc on est surpris que le budget ait été reconduit à l'identique pour l'année 2014. Dans ce contexte tendu, loin d'une gestion serrée de son budget, la ville n'a aucun problème à augmenter de près de 4% des dépenses réelles de fonctionnement à 159 millions d'euros par rapport au budget réalisé 2013, avec 5% de hausse des dépenses générales et des charges de personnel. Il est certain qu'il va falloir désormais assumer le fonctionnement de la cité des loisirs. Votre budget ne prévoit aucune optimisation des ressources. Par exemple, si la ville décidait de regrouper certains de ses achats avec d'autres communes, elle économiserait des millions d'euros sur des dizaines de postes de dépenses. Paris l'a fait en 2001, vous devriez trouver facilement des communes dans le département qui accepteront ces groupements de commandes. Autre exemple, vous prévoyez de créer encore 12 postes à la mairie, mais vous n'en transférez aucun à l'intercommunalité où nous pourrions pourtant fusionner nos ressources avec Pluto. Nous avions parlé lors du débat d'orientation budgétaire du millefeuille que vous entretenez notamment avec la vidéosurveillance. Courbevoie s'en occupe et la communauté d'agglomération Seine-Défense s'en occupe aussi. Les structures s'empilent au lieu de se compléter. Votre argument était de dire qu'il était logique que la communauté d'agglomération s'occupe des caméras de la Défense, mais alors à quoi sert de facto ? L'intercommunalité doit servir à foisonner nos activités avec les villes voisines, pas être une coquille vide dans laquelle 15 vice-présidents résidents, dont un certain nombre dans la salle, sont pourtant défrayés. Autre point saillant de ces dépenses de fonctionnement, le poste honoraire d'avocat, de conseiller en communication, on le sait, triple. Le budget fait augmente de 10% à 900 000 euros. Le budget indemnité des maires adjoints et conseillers s'envole de 34% à 522 000 euros par l'augmentation du nombre d'entre eux, alors que la ville, elle, ne changera pas d'échelle. Nous trouvons donc que dans le contexte économique difficile, ce budget de fonctionnement côté dépenses cède à la facilité de l'augmentation. Avant de passer aux recettes, nous sommes surpris de voir que le budget du Val ne progresse que d'1% par rapport au réalisé 2013, alors que vous dénonciez de nouvelles charges pour la réforme des rythmes scolaires. Où sont les surcoûts annoncés de 2,7 millions d'euros ? Enfin, nous sommes stupéfaits, le mot n'est pas trop fort, de voir qu'en pleine crise économique et sociale, le budget du CCAS baisse de 8%, de 2,3 millions, qui est le réalisé 2013, à 2,70 millions euros. Côté recettes, l'augmentation des dépenses a une conséquence logique. La hausse des impôts, on y vient. Après la hausse de 5% de la fiscalité des entreprises, la CFE, décidée par la communauté d'agglomération, voilà une hausse pour les ménages de non pas seulement 3,5% de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, mais de 4,4% en incluant la hausse mécanique des bases d'imposition. Cette hausse correspond donc à 3 fois l'inflation. Permettez-nous de vous dire que cette hausse est un sacré pied de nez aux courbevoisiens. J'ai sous les yeux,
plus très loin,
votre tract d'octobre dernier. Les socialistes passent leur temps à donner des leçons, il n'y a pourtant pas de quoi. Et vous citiez la fiscalité de Paris, Argenteuil et Colombes. Parlons de votre leçon à vous, qui est bien plus éloquente. Il n'a suffi que de 2 ans, 2 petites années de 2011 à 2013, pour que Courbevoie triple sa dette. Et les taux d'imposition, auxquels il faut ajouter l'augmentation mécanique des bases, a bondi de près de 50% depuis 2001. Je lis aussi votre programme page 2. Nous nous engageons à maintenir une des fiscalités les plus basses du département. Les naïfs, sans doute, avaient compris que vous maintiendrez les taux des impôts, comme notre groupe s'y était engagé, lui, mais en fait, ce n'était pas le cas. D'où notre question, jusqu'à quel taux de taxe d'habitation considérez-vous qu'elle restera parmi les plus bas du département ? puisque la hausse est actée et du coup vos promesses, on ne sait plus bien lesquelles elles sont. Enfin, comment ne pas pointer le grand écart entre la position de l'UNP dont vous réclamez et la vôtre aujourd'hui. L'UNP vient de faire une surenchère incroyable en sortant du chapeau il y a quelques semaines, 130 milliards d'euros de baisse des prélèvements, et localement, vous les augmentez de 2 millions d'euros. Nous souhaitons bien du courage à vos électeurs pour s'y retrouver. Je terminerai.
C'est terminé, s'il vous plaît.
Ah, mais ils ne savaient pas la magnifique hausse que vous leur montez. Assumez-la, cette hausse. Je terminerai comme la dernière fois sur la dette. Maintenant prévue à 154 millions d'euros pour la fin d'année, et à près de 200 millions d'euros à la fin de la mandature, si on en croit toujours votre plan pluriannuel d'investissement. Vous disiez la dernière fois que vous l'assumiez, c'est très bien. Mais nous retrouvons dans votre document une prétendue référence au taux d'impôt des filles de plus de 50 000 habitants non membres d'une communauté d'agglomération. Ce que vous avez précisé par oral et qui n'est pas écrit. Vous avez marqué le moyen national des communes de plus de 130 000 habitants, sans cette référence un peu opaque, à être membre ou pas d'une communauté d'agglomération. Et ce graphique qu'on a sous les yeux tend à montrer que Courbevoie est moins endetté que la moyenne des villes de même taille. Alors, d'une part, nous avons trouvé aucune source, aucun endroit, votre source de données, comme nous vous l'avions dit la dernière fois, et d'autre part, Courbevoie a malgré tout une intercommunalité. Donc, comme vous dites assumer la dette, nous nous demandons pourquoi la municipalité ne veut pas reconnaître simplement qu'en 2 ans, elle a maintenant atteint la moyenne des villes comparables et qu'elle la dépassera dans les années à venir. Les chiffres sont pourtant sous nos yeux à tous, quand on prend le budget primitif, quand on prend les ratios financiers standards que chaque ville doit publier, ce sont en gros les 10 ratios, c'est les ratios un peu pour les nuls, le budget pour les nuls, ça permet en fait de voir simplement où on se situe. Le ratio numéro 5 s'appelle « encours de dette divisé par la population ». Il est écrit, les ratios sont là, 1527 euros pour Courbevoie. Vous avez d'ailleurs dit qu'en fin 2014, ça ne sera plus 1527, mais 1700 et quelques. Et la moyenne de la strate, qui est donc nos homologues des villes entre 50 000 et 100 000 habitants, la moyenne de la strate est à 1568. Donc tout à fait comparable. Nous sommes maintenant des villes avec un endettement comparable aux autres. Pour conclure, vous ne serez pas étonné que nous votions contre ce budget, en décalage complet avec le besoin de maîtrise des dépenses publiques, de soutien à la compétitivité des entreprises et les fondamentaux d'une ville bien gérée. Je vous remercie.
Madame, ça, à vous. Dans la salle, s'il vous plaît, aucune manifestation dans la salle, quelle qu'elle soit. Je le demande, sinon je fais évacuer la salle.
Dans les réunions précédentes, il y a des manifestations.
Ça vous a pas gêné? Non, c'est l'élection du maire, mais pas le reste. Jamais.
Aussi,
Depuis que je suis maire, jamais j'accepte ça. Je ne veux pas.
Ça vous a pas gêné?
Je vous le dis. Sinon, je ferai évacuer la salle la prochaine fois. Vous êtes d'accord?
Non. Je répète, il y a eu des manifestations.
Jamais. J'avais la même réflexion si ça faisait trop vite.
Sauf la fois précédente.